nous avons édicté quelques principes. D'abord, c'est tenir des engagements. Ça, c'est la première des choses. Deux, c'est rendre des comptes. Trois, c'est gérer avec sérieux et rigueur l'argent public. Et quatre, c'est faire des économies dans la mesure où ça ne nuit pas au service public. La fonction publique est quelque chose de fondamental. On ne s'invente pas agent territorial. On ne s'invente pas agent métropolitain, départemental, ou on ne s'invente pas pour travailler dans une maison de la solidarité. Et on a une vocation pour ça. Et c'est la raison pour laquelle tous ceux qui arriveront en responsabilité, je pense et je l'espère, en tout cas nous serons les porte-parole, pourront respecter justement cet esprit de fonction publique et cet esprit surtout de service public. Et je dirais même, peut-être qu'il faudrait changer le mot et de mettre un service au public, parce que c'est véritablement ce qui nous attire le plus et ce qui nous engage le plus. Je pense qu'aussi être à l'avant-garde, c'est aussi aller et privilégier l'exigence sociale. Alors, notre budget est consacré à 70% à la solidarité, ce qui est assez considérable, mais c'est aussi un budget qui est consacré à l'accompagnement des personnes qui sont en difficulté. Alors, dans le premier temps, ça a été un de nos axes de campagne que nous avons continué à développer, c'est l'emploi. On part du principe que le RSA n'est pas une fatalité et nous essayons d'aider au maximum les bénéficiaires du RSA à aller sur le chemin de l'emploi, à retrouver un travail, parce que c'est par là qu'on arrive véritablement à s'épanouir dans notre société. Donc nous avons mis en place à la fois l'accélérateur de l'emploi, mais aussi des job dating avec des rendez-vous pour essayer d'adapter l'offre et la demande, parce que c'était un vrai problème sur notre département, et aussi créer des pactes avec des entreprises pour justement mettre en relation les demandeurs d'emploi et ceux qui cherchaient également. Alors nos initiatives sont assez inédites, elles sont assez volontaristes. Nous en ferons le bilan au mois de mars. La solidarité, elle doit aller à la personne qui en a vraiment besoin. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas aussi encourager les gens à aller travailler si on ne leur donne pas des possibilités, à la fois pour se loger, mais aussi pour garder les enfants. Donc nous avons, en 20 mois, nous avons créé 674 places de crèche, dont 378, ne serait-ce que sur la ville de Marseille. La solidarité aussi, c'est la problématique des hôpitaux. Alors là-dessus, au niveau des urgences, moi j'ai été effarée de voir l'état des urgences sur la Timone, sur la façon dont sont traités les enfants quand ils arrivent en pédiatrie. Là-dessus, nous avons injecté 20 millions d'euros, à la fois sur les hôpitaux de Marseille, de Salon et d'Arles, pour que justement, essayer de se mettre un petit peu à niveau. Nous avons également la volonté cette année de mettre en avant et d'aider nos aînés. Nous ferons des annonces dans les mois à venir. On a lancé 250 places en maison de retraite sur trois villes qui sont Marseille, Aix et Salon. Être à l'avant-garde, c'est aussi développer l'attractivité de ce territoire. Alors, là-dessus, l'avantage d'avoir une double casquette, c'est que je suis présidente du conseil départemental, première vice-présidente de la métropole, en charge de la mise en place de la stratégie et de l'attractivité du territoire. Donc nous sortirons cette stratégie. Alors je n'ai surtout pas voulu une usine à gaz, parce qu'on a commencé bien sûr à me donner des gros papiers avec des gros schémas, mais qui apportaient rien. Donc on est reparti à zéro et on a fait de la concertation. On a fait la concertation avec des acteurs économiques, nous avons fait la concertation avec l'ensemble des élus, des territoires, parce que chacun des territoires a des besoins différents en fonction de l'endroit où il est, pour que justement on puisse faire une stratégie qui colle le plus et qui soit adoptée par un maximum de personnes au niveau du département des Bouches-du-Rhône. Il faut que les infrastructures suivent. Donc c'est la raison pour laquelle nous mettons plus de 80 millions d'euros sur les routes chaque année. Nous avons un engagement de 300 millions d'euros sur les transports. Et dessus, sur ces transports, nous sommes intimement persuadés, et là, au moins, ça fait consensus avec tout le monde, donc tous les pays du département, la mobilité est véritablement le point qui est réclamé par tout le monde. L'emploi et la mobilité, pouvoir se transporter facilement d'un point à l'autre à un prix tout à fait normal. Donc là-dessus, ces 300 millions, ce n'est pas un chèque, c'est plutôt financer des projets concrets. Il y a le Valtram dans le pays d'Aubagne qui pourra désengorger toute la partie qui ira jusqu'à la Bouilladis. Et puis aussi, quelque chose qui nous tenait à cœur, c'est des voies de bus réservées en site propre sur les autoroutes. Donc, nous avons eu l'année dernière l'accord du préfet et derrière, cette année, elles viendront voir le jour au fur et à mesure. C'est le BHNS, donc avec Aix, en Provence. Quand on voit les difficultés qu'on a pour aller sur la 7 le matin, on peut le comprendre. Et c'est aussi le boulevard urbain sud qui devrait commencer à voir le jour dans les premières études d'ici la fin de l'année. Être à l'avant-garde, je dirais que c'est aussi améliorer le pouvoir d'achat des Provençaux. Et pour cela, moi, je vais en terminer avec ce matraquage fiscal. Donc, j'espère que les échéances prochaines nous permettront aussi de revoir certaines positions là-dessus, parce que je pense que les ménages, les entreprises et les retraités sont assez taxés comme cela. J'espère aussi que les dotations de l'État arrêteront d'être complètement diminuées. Mais pour nous, nous avons pris un engagement et nous n'augmenterons pas les impôts jusqu'à la fin de notre mandat. Donc, ça, c'est une volonté que j'ai. Nous faisons des économies au niveau du fonctionnement. Donc jusqu'en 2021, je ne veux pas que nous augmentions les impôts d'un seul centime. Alors après, bien sûr, on n'est pas tributaire des assiettes fiscales. Donc, mais j'espère que quand même, le nouveau gouvernement qui viendra en place pourra essayer de rééquilibrer un peu les choses et rendre un peu nos fiches d'impôts un peu plus compréhensibles, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas. Alors vous pouvez constater donc au bout de ces 20 mois, les choses changent parce que je suis partie d'un principe, c'est que quand je promets quelque chose, je tiens mes engagements. Alors nous avons, pour protéger aussi le pouvoir d'achat, lancé un dispositif qui fonctionne bien. Depuis 4 mois, c'est le système Provence Éco-Rénov. On donne 3000 euros sur des bâtiments assez anciens qui pourraient être réhabilités, ce qui permet d'économiser gaz et électricité. Sur 4 mois, nous avons eu 600 dossiers qui ont été déposés et acceptés. Donc ça prouve bien que les classes intermédiaires, ceux qui sont toujours entre deux seuils et qui n'ont vraiment pas la possibilité de bénéficier de quoi que ce soit, eh bien, ont des besoins et que là-dessus, nous allons aller de l'avant. Et nous allons continuer, puisque nous voulons faire, pour cette année, un chèque aux primo-accédants, premier logement. Être à l'avant-garde, c'est aussi, et surtout, préparer l'avenir de notre jeunesse. Alors nous avons lancé nos services civiques, notre centaine de services civiques. Ces jeunes sont à l'intérieur des différents services du conseil départemental, d'associations aussi, des sapeurs-pompiers aussi. Nous allons en faire des annonces également sur les collégiens de 3e, sur ces fameux stages au fil de l'année. Donc nous sommes en train d'y travailler pour que ces stages aussi puissent être faits, parce que c'est vraiment le chemin du combattant en général pour les parents d'arriver à trouver quelqu'un qui prend un enfant en stage en 3e. C'est aussi important pour nous de faire de nos collégiens des concitoyens qui soient conscients de leurs futures responsabilités, qui soient sensibilisés aux choses de la vie. C'est l'environnement, c'est la culture, c'est le devoir de mémoire. Et à partir de février, du retour des vacances de février, nous aurons des tablettes numériques dans 95 collèges, puisque nous avons, vous le savez, légèrement inversé la vapeur, c'est-à-dire qu'au lieu d'imposer des ordinateurs portables qui ne servaient pas à grand-chose, nous avons proposé aux établissements scolaires de faire un projet éducatif à base de tablettes numériques, qui, ces tablettes numériques, après, seront utilisées avec un intérieur pédagogique pour justement aider les enfants, que ce soit en maths, en histoire, en géo ou en langue. À la rentrée là, prochaine, 2017-2018, les collèges du département seront équipés en très haut débit. Sur la sécurité aussi, là ce sont des très gros investissements au niveau des montants. Donc cette année, nous aurons 12 établissements qui seront protégés par des portails de sécurité. Mais le portail de sécurité ne suffit pas, donc nous avons étudié par collège la possibilité de protéger le pourtour avec des grillages et des protections particulières. Parce que si vous mettez un portail de sécurité que vous pouvez enjamber de l'autre côté, ça ne sert pas à grand-chose. Nous avons également incité les communes à mettre de la vidéoprotection devant leur collège et nous avons étendu ce système, nous allons l'étendre cette année aussi aux crèches, haltes-garderies et écoles parce que nous proposons un financement à 80% de ces caméras sur justement ces bâtiments-là pour protéger nos enfants. Mais comme la vidéoprotection à l'extérieur des établissements dépend de la commune, il faut que ce soit le maire qui en soit à l'origine. Mais derrière, ce qui est important, c'est de pouvoir laisser aux communes, pousser les communes à investir devant la vidéoprotection, devant les collèges. Ça, c'est fait. Et l'année prochaine, devant les haltes-garderies, les crèches et les écoles, pour que justement les enfants soient plus en sécurité à ces endroits-là. C'est notre petite pierre à l'édifice sur la sécurité. C'est aussi faire du conseil départemental un acteur majeur de la transformation de notre territoire, de la Provence. Alors, vous avez pu constater que le conseil départemental, alors peut-être parce qu'il a changé de nom, est vraiment de retour et vraiment joue son rôle dans les institutions. Alors, bien sûr, il y a eu tous les prophètes qui nous ont jeté les plus grands mauvais sorts, mais bon, comme nous sommes des personnes qui voulons aller de l'avant, eh bien, nous sommes derrière sur ces prophètes de malheur qui veulent la disparition du conseil départemental. Eh bien, écoutez, là-dessus, je crois que c'est... Ça commence depuis très longtemps, hein, où on se demande si le conseil départemental ne va pas disparaître. C'était en 82, quand il y avait les lois sur la décentralisation, on disait que le conseil départemental va disparaître. Mais enfin bon, il faut quand même qu'on soit un peu raisonnable et sérieux. Je crois que ce qu'il ne faudrait pas, il ne faut pas prendre cette habitude, c'est que chaque fois qu'il y a une élection, il y a un concours de l'épine de celui qui va sortir la plus grande bêtise. Donc là-dessus, c'est encore une idée pour la nouvelle réforme territoriale. Donc chaque fois qu'il y a une élection, il y en a un qui sort quelque chose du chapeau. Je me demande, moi, sans le département, qui s'occuperait des collèges ? Je pense personne. Sans le département, qui s'occuperait des personnes âgées, des personnes handicapées ? Je ne vois pas qui, personne. Sans le département, qui est-ce qui s'occuperait des bénéficiaires du RSA ? Personne. Sans le département, qui est-ce qui ferait aboutir les projets des communes ? Je pense vraiment personne. Alors, nous allons continuer en 2017 à assumer nos responsabilités. Nous allons continuer à jouer collectif, comme nous l'avons fait. Nous allons continuer à rassembler toutes les énergies, parce que c'est une Provence que nous voulons ambitieuse et conquérante. C'est une Provence qui doit faire l'événement tout le temps. C'est une Provence où le territoire doit rayonner, il doit impulser, il doit innover. Je pense qu'aujourd'hui, à partir de maintenant, on a eu des succès, francs succès, avec Capitale européenne de la culture en 2013. On fera Capitale européenne du sport en 2017. En 2018, on reviendra sur Capitale européenne de la culture, enfin une forme de culture en 2018. Donc je pense qu'il faut une thématique chaque année. Donc je proposais éventuellement qu'en 2019, on fasse une capitale, pourquoi pas du tourisme, parce qu'on en a toutes les capacités, puisqu'en 2020, nous avons la biennale, et en 2024, j'espère, les Jeux olympiques.